Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à redécouvrir ou à découvrir pour certains d'entre nous sur grand écran Fantôme contre Fantôme, Frighteners de Peter Jackson, évidemment un parfait programme pour Halloween, ça tombe bien, c'est de saison, on va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
Cénociné Extra Ball spécial Fantôme contre Fantôme et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Rafik, quelle place il occupe ce film dans la carrière de Peter Jackson?
Alors, avant toute chose, j'aimerais dire que nous sommes le soir d'Halloween, que c'est donc son anniversaire à Peter Jackson. Donc, si la
bon
salle peut
Peter.
Éventuellement lui chanter un petit quelque chose ou applaudir, parce que c'est quand même. Voilà. On se chargera de lui transmettre, n'est-ce pas Thomas?
Tout à fait, ils n'ont pas fini.
Peter.
C'était très beau.
Merci pour lui.
C'était magnifique, merci. Merci pour Peter. Et donc bon anniversaire Peter. Et au passage, donc quelle place pour Frighteners?
Frighteners, ça a été dans le film qui a réellement, à plus d'un titre, permis l'existence du Seigneur des Anneaux. Puisque donc, comme vous le savez, Peter Jackson est un cinéaste néo-zélandais qui est parti de presque rien avec Bad Taste, tourné dans le jardin de ses parents, et qui avait pris l'habitude de toujours faire plus que ce que les budgets lui permettaient, en fait. C'était un peu sa réputation. Et mais il avait tenté, au tout début des années 90, de monter à Hollywood pour voir s'il y avait de la place pour lui.
Il y avait quelque chose à faire.
Il était vaguement question qu'il fasse un Freddy à l'époque. Ça ne s'est pas fait, mais il a gardé un bon contact avec un monsieur qui s'appelait Marc Cordeski. Il dormait sur son canapé à l'époque.
Ah,
il n'avait même pas de quoi se loger à Los Angeles. Marc Cordeski, qui plus tard sera le monsieur qui va protéger le Seigneur des Anneaux, oui, des deux brutes que
des
sont Harvey Weinstein,
ouais,
et Bob Weinstein.
Ouais.
Regardez la fin du Retour du Roi à l'occasion, regardez le générique de fin du Retour du Roi, et vous pourrez voir le nom de Marc Cordeski et des frères Weinstein sur la même page, sur le même panneau, avec l'image d'un homme en train de tenir à distance deux trolls. Voilà, le message est assez clair. Donc voilà, et il a, je pense, assez vite compris que sa carrière se ferait ailleurs qu'à Hollywood. Et donc Frighteners au départ c'est un projet qui s'est un peu à la façon de ce que les frères Coen avaient fait quand ils galéraient sur Miller's Crossing lorsqu'ils écrivaient le film, et pour se sortir de cette galère ils avaient décidé d'écrire complètement autre chose à côté, ça a donné Barton Fink. Oui. C'est un peu la même chose avec Frighteners, puisque Fran Walsh et sa femme, donc, et Peter Jackson, étaient dans l'écriture du film Créatures Célestes, qui était un scénario extrêmement compliqué et très lourd psychologiquement. Et ils avaient besoin de respirer, en fait. Et très, très rapidement, ils ont commencé à jeter des idées pour complètement autre chose, qui étaient les prémices de Frighteners. Et là, on était en 92. Et donc, ils ont fait un traitement de 4 pages qu'ils avaient envoyé à l'époque à Robert Zemeckis et Joël Silver, parce que Zemeckis et Silver faisaient une série qui s'appelait Les Contes de la Crypte, et ils se disaient que ça pouvait éventuellement l'objet d'un épisode. Sauf que ce qu'ils avaient rendu était déjà tellement brillant que Zemeckis leur a dit non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à faire. Et Zemeckis voulait au départ en faire un film lui-même. Qui aurait été une version ciné de sa série Les Contes de la Crypte. Mais lorsqu'il a vu le script final, il a trouvé que c'était tellement riche et ils avaient tellement donné d'eux-mêmes qu'il s'est dit non, en fait, c'est pas possible, il faut que ce soit eux qui le fassent. Donc merci aussi à Zemeckis parce qu'il a quelque part aidé à leur carrière, entre autres. Mais jusque-là, il était vraiment catalogué cinéaste néo-zélandais. Et donc Créature Céleste, qui est un film qui a eu un très très bon succès d'estime critique, il a été nominé aux Oscars, enfin il y a eu des tas de choses quoi. Ça restait l'œuvre d'un quelque part d'un étranger.
Oui.
Et en fait, avec Frighteners, dans les négociations avec le studio Universal, Peter Jackson a réussi à leur faire comprendre qu'Universal pourrait gagner beaucoup d'argent, enfin économiser énormément d'argent si le film était fait en Nouvelle-Zélande, sachant que l'histoire se passe aux États-Unis. Donc Universal n'était pas forcément contre, surtout quand ils ont vu le calcul, ils se sont dit effectivement ça peut être très intéressant pour nous. À la seule condition que le public américain ne se rende jamais compte
que ça
se passe en Nouvelle-Zélande,
là-bas.
Voilà. C'est le début de la façon avec laquelle Peter Jackson va essayer de convaincre le monde entier que la Nouvelle-Zélande est
les États-Unis.
Tout, en fait. Non, mais le monde entier.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'il va transformer la Nouvelle-Zélande en terre du milieu dans les années
aussi,
suivantes.
Oui.
Et en New York des années 20, sur King Kong. Mais déjà, sur Frighteners, il fait l'expérience de voir qu'au niveau de l'infrastructure, la logistique, comment on peut transformer un coin de la Nouvelle-Zélande en véritable ville américaine qu'aucun spectateur américain ne grillera. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, sur Créature Céleste, comme il avait été impressionné par Jurassic Park, comme à peu près tout le monde sur Terre, il avait commandé deux stations Silicon Graphics et sur Créature Céleste, ils se sont un peu entraînés à travailler l'image de synthèse. Et il a vu les possibilités inouïes du truc. Donc il s'est servi du petit budget qu'Universal lui avait confié pour agrandir sa branche techno, on va dire. Quoi, ils sont passés de 2 à, je sais pas, soyons fous, 6 ou 7 Silicon Graphics. Mais c'est quand même les débuts d'Weta Digital.
Ouais.
Et quand vous allez voir, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. Enfin, à l'époque, en tout cas, en 95, c'est presque du jamais vu, hein, le nombre d'effets digitaux qu'on a dans le film. Il a aussi très très finement négocié le tournage, parce que c'est 6 mois, c'est énorme pour une production hollywoodienne qui ne soit pas un Titanic, quoi.
Bien sûr.
C'était justifié par le fait que pratiquement toutes les scènes devaient être tournées plusieurs fois, puisque donc c'est un film qui met en scène des humains qui sont tout le temps en train d'interagir avec des fantômes, et donc on a ce qu'on appelle le motion control, qui est une caméra qui permet de tourner toute une scène et d'enregistrer en fait avec un ordinateur tous les mouvements d'appareil et de focale, et ensuite de reproduire le mouvement à l'identique avec un comédien sur un écran vert. De façon à ce qu'en les superposant, ce soit
le
absolument
plan,
parfait. Voilà. Donc ça, c'était aussi un truc logistique assez intense. En fait, c'est un film qui a pratiquement tous les titres dépasse ses ambitions. Il a coûté 30 millions de dollars à l'époque, ce qui était à peu près, grosso modo, la moitié du budget d'une comédie d'Eddie Murphy. Et là, la gueule d'un blockbuster d'époque.
Oui.
Et donc, ça s'est retourné contre lui, en fait. Le fait que le film soit aussi riche, ça s'est un peu retourné contre lui parce que Universal a été tellement impressionné par ce qu'on appelle les délices, donc les plans d'effets spéciaux qui tombaient, etc. Le film était prévu pour une sortie à Halloween. Ils se sont dit non, c'est vraiment là, il va falloir
mettre
le paquet. Celui-là, il faut le sortir en été. Donc ils l'ont reporté à l'été suivant. Sauf que l'été suivant, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça tombait le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et Jackson, alors, déjà, c'est Halloween, on le perd, mais en plus, les Jeux Olympiques, non, mais vous inquiétez pas, nos études ont prouvé qu'il n'y avait pas
les
de problème. Voilà,
les
mecs ont dit, vos études, enfin, je ne sais pas, les Jeux Olympiques, il y en a combien aux États-Unis? Il y en a eu 3 dans le siècle, quoi. Les études ne tiennent pas vraiment, vraiment debout. Et donc, ça s'est retourné contre lui parce que le film s'est retrouvé en concurrence avec des Independence Day, des trucs comme ça avec lesquels il pouvait pas tenir. Michael J. Fox n'était déjà plus vraiment une superstar. Je crois qu'il sort du concierge du Bradbury, c'était le film d'avant, un truc comme ça, donc ça donne un peu une idée de l'état de la carrière, quoi. Donc c'est, voilà, réalisateur inconnu, et l'affiche qui est vraiment un visage sur un drap blanc, excuse-moi, mais bon, ça raconte pas non plus trop ce que c'est. Autre chose qui s'est mise en travers de la carrière du film, c'est la classification, puisque Jackson s'était engagé à faire un film PG-13, donc interdit au moins de 13 ans non accompagné. Et lui, il était vraiment convaincu d'avoir fait un film
fait un PG-13.
Visible par les gamins, en gros.
Oui.
Mais dès les première projection, il a vu que c'était n'importe quoi et que la classification, la commission de classification réagissait sur absolument tout. Oui. Les coups de feu dans les portes, boum, c'était un, il mettait
c'était
un schlass, quoi, si
ouais.
tu veux. Et le film s'est retrouvé NC-17, donc interdit aux mineurs. Ce qui est un acte de mort, enfin, pour un film,
en tout cas, qui cible un public
estival, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment, et en France, par exemple, il est sorti interdit aux moins de 12 ans.
Interdit aux moins de 12 ans,
oui. Alors que la plupart des parents, voyant Fantôme contre Fantôme écrit sur l'affiche, emmenaient tous leurs gamins en salle et ils se faisaient refouler. Voilà. Mais du coup, il a regretté a posteriori parce qu'il avait coupé des scènes justement pour avoir le PG-13 et il avait envie de les remettre dedans qu'il était NC-17. C'est pour ça que vous allez voir ce soir une version qui est pas la version sale, qui est une version une sorte de director's cut. En fait, Jackson considère voilà comme un director's fun cut au sens où je me fais plaisir. Et notamment, il y a une séquence qui le compositeur Danny Elfman s'était engagé sur le film uniquement à la lecture d'une scène dans le script qui était la façon avec laquelle un fantôme peut faire l'amour avec un humain, en fait. Bon, je vous laisse découvrir l'astuce qu'ils ont trouvé, puisqu'en fait un fantôme réagit lorsque quelque chose lui passe à travers, quoi. Et donc on a les deux personnages du film qui en font une utilisation très personnelle. Et cette scène avait été coupée pour respecter la classification. Du coup, là, il a remis, ce qui a fait plaisir évidemment rétrospectivement à notre ami Danny Elfman. Et donc voilà, quand Universal a vu le film, ils ont vraiment été impressionnés. Même si le film a été un échec, ils avaient dès l'époque dit à Peter Jackson qu'en gros, ils voulaient bosser avec lui. Et ils l'ont immédiatement casé sur le projet King Kong. Ça tombait bien, c'est son film préféré. Et donc dès 96... il s'est engagé sur ce projet-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet King Kong a nécessité qu'il développe à mort sa structure qu'il venait de développer sur Frighteners. Il a engagé des tas de techniciens. Et quand tout d'un coup, Universal a eu peur parce qu'il y avait deux productions, il y avait Godzilla et Mon Ami Joe qui se faisaient en même moment, ils se sont dit, oh là là, on va être en concurrence, donc ne faisons pas King Kong. Mmh. Ils ont arrêté King Kong du jour au lendemain. Et Jackson, en fait, avait agrandi Weta. En vue de ça. Et il s'est retrouvé avec une équipe et des moyens de production à rien faire, quoi. Et c'est là où, en fait, le projet Seigneur des Anneaux a commencé à devenir concret.
Ouais.
On a les gens qu'il nous faut. Donc maintenant, allons-y, mettons le projet à la hauteur de ces gens-là. Et tout le travail logistique fait sur Frighteners, que ce soit au niveau des effets spéciaux, au niveau aussi, et ça c'est important je pense, au niveau de la façon d'interpénétrer les récits, parce que moi je trouve le film facile à comprendre, facile à suivre. Il y a des gens qui ont du mal apparemment, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait trop de choses, mais en réalité c'est vrai que quand on décortique le film, il y a sept histoires qui s'interpénètrent et de façon assez subtile, et ça aussi c'est un entraînement par rapport à Lord of the Rings, où il va y avoir non-stop des tas de récits superposés. Au niveau du travail des maquettes par rapport à l'image de synthèse, vous allez, là aujourd'hui, avec le recul, on commence à les griller. À l'époque, on voyait pas, mais aujourd'hui, on commence à le voir un peu, qu'effectivement, il y a notamment des travelling supersoniques dans la ville qui en réalité sont faits avec des maquettes. Autre chose moi, je trouve qui annonçait Lord of the Rings, c'est le Grim Reaper, donc du film entre guillemets la mort, quoi. Son design est vraiment celui d'un Nazgûl.
Oui.
Et à l'époque où j'ai vu le film, je me disais,
ce serait bien d'avoir un Nazgûl, ça doit ressembler à ça.
Et pour l'anecdote, donc avec un copain à l'époque, on s'était convaincu que si un réalisateur pouvait faire Le Seigneur des Anneaux, c'était Peter Jackson. Mais là, on était en 96, je crois. Donc,
5 ans avant.
T'imagines ça. Personne ne veut nous croire aujourd'hui, mais bon, on l'avait dit, qu'on aurait dû l'écrire, le mettre en tampon
prédit.
Et voilà, ranger le document dans un coffre pour que ce soit prouvé. Mais quelque part, tu sens qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Aussi, un autre truc au niveau de la mise en scène. Donc, c'est un film qui joue beaucoup sur les interactions humain-fantôme. Et du coup, comme ça rend pas mal hommage à la fois à la ghost comedy hongkongaise et donc il y a beaucoup de chorégraphie, Jackson s'est vraiment fait plaisir en termes musicaux. Je veux dire.
Ouais.
Et c'est un film très musical. Dans le déplacement des comédiens, la façon avec laquelle ils apparaissent au premier plan, au second, etc., ils n'arrêtent pas de se croiser et tout. Il y a vraiment un travail chorégraphique extrêmement intense. qui parfois vraiment renvoie aux meilleures heures de la comédie musicale. Enfin, oui. Moi, il y a des moments, je pense à West Side Story quand je vois Frighteners. Ça aussi, je pense que ça a beaucoup préparé à Lord of the Rings, qui est, je trouve, également un film qui est vraiment porté par un rythme et une ampleur musicale. Et c'était pas le cas de la mise en scène de Jackson à l'époque où il faisait Branded ou les Feebles ou ce genre de choses. Il était plus au plan. Alors que là, tout d'un coup, il commence à découvrir les joies de travailler à l'intérieur du plan, en fait. Donc, on pourrait lister un nombre incalculable de choses qui préparent le terrain. Et je pense que ce film, pour tout le monde et pour Weta, Richard Taylor, donc des effets spéciaux de Weta, etc., a vraiment été la grande répétition, oui. Et aussi a convaincu pas seulement Jackson, mais toute son équipe néo-zélandaise. On peut vraiment faire du cinéma hollywoodien, si on veut.
Ils en avaient la capacité. Ouais.
Et le film, quand il est sorti, donc ça a effectivement été un échec, mais pour des geeks qui le découvraient à l'époque, c'est un film qui écrasait beaucoup de films hollywoodiens de l'année. Enfin, en termes de look, de gueule, de rythme, de
tout. Et qui, là aussi, était porteur de promesses.
Voilà.
De
ce point de vue-là. Et donc, effectivement, c'était... ils peuvent le faire. Et ça, je pense que ça a vraiment donné l'impulsion de les rendre effroyablement ambitieux. Et on sait ce que l'ambition a donné dans les années suivantes.
Eh ben, c'est parfait. Je propose qu'on regarde ça sur pièce.
Oui,
qu'on juge
plaisir,
directement,
ouais.
Qu'on se fasse plaisir avec Frighteners directement. Notre temps est écoulé. Merci,
Trafic.
Merci à Seb, à la
technique.
Merci au public. Au Club de l'Étoile, au public. Pour l'accueil. Applaudissez-vous, tout à fait. Merci à Peter Jackson. Et bon anniversaire.
Bon anniversaire, Peter.
Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous dit à très vite.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.